Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue pour un nouveau numéro de Zone de Contact présenté par Anthony Lefebvre. Ravi de vous retrouver ce soir pour une heure. Et tout de suite, voici le programme de notre émission. La Russie accueillera une conférence des chefs de la diplomatie des pays africains, des officiers de Centrafrique suivent une formation en Russie et les pertes de Kiev qui ont dépassé la barre des 500 000 soldats depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les États-Unis ont pris conscience du rapprochement inévitable entre la Russie et le continent africain, selon un média américain. Le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Mali nous partagera ses analyses de ses aveux. Le président nigérian Bola Tinubu a proposé de créer un centre régional antiterroriste. Un analyste politique sénégalais réagira à cette proposition. Les États-Unis et le Niger ont ouvert des discussions pour acter le retrait des troupes américaines. Un expert politique malien commentera ce dialogue en cours. Le président du Sénégal a appelé à une réévaluation des relations avec l'Union européenne. Un expert sénégalais reviendra sur ses déclarations. Le territoire de Sirius, situé au bord de la mer Noire, dans le sud de la Russie, accueillera en novembre prochain une conférence des chefs de la diplomatie des pays africains. C'est Roscongress, organisateur du forum Russie-Afrique, qui en a fait l'annonce. Cet événement accueillera également des tables rondes pour discuter des sujets de coopération russo-africaine, des questions humanitaires, de l'éducation, des soins de santé, ainsi que de la sécurité épidémiologique. Enfin, des événements culturels sont également prévus. Pour rappel, la tenue de ce forum fait partie des mesures qui ont été décidées lors du dernier forum Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. La formation d'officiers centrafricains en Russie se poursuit. Le ministre centrafricain de la Défense, Claude Rameau-Biro, a déclaré dans une interview à une chaîne de télévision russe que plus de 10 000 officiers centrafricains ont été formés ces 5 dernières années. Il a souligné l'importance des instructeurs russes qui sont devenus une composante très importante du système de sécurité centrafricain et déclaré qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire avec eux. Fait important mis en avant par le ministre, certains de ces formateurs russes sont des vétérans de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Les pratiques utilisées sur le front ukrainien sont analysées par les officiers centrafricains. Enfin, Claude Rameau-Biro a indiqué que la formation mettait beaucoup l'accent sur la pratique et la forme physique. Il a ajouté que des instructeurs russes accompagnaient les soldats des forces armées centrafricaines dans les opérations contre les groupes armés et que leur expérience irremplaçable a permis aux militaires centrafricains d'être efficaces au combat. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a fait le point sur le déroulement de l'opération militaire spéciale en Ukraine lors d'une réunion du conseil d'administration de son ministère. Selon M. Choïgou, les troupes russes ont pris l'initiative sur toute la ligne de contact et continuent de repousser l'ennemi. Le ministre a annoncé que les pertes de Kiev ont franchi le seuil des 500 000 soldats depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il a également déclaré que la situation sur le front témoignait de l'augmentation des capacités de combat des forces armées russes et de la puissance de l'industrie de défense. La Russie continuera de renforcer la production d'armes et d'équipements militaires les plus efficaces de manière proportionnelle face aux menaces de l'Occident, a assuré le ministre de la Défense. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Washington réalise que l'Afrique compte de plus en plus sur la Russie, selon le média américain Politico. Un responsable des États-Unis a déclaré à la publication que la plupart des pays africains ne veulent pas qu'on leur dicte quoi faire, ni comment gouverner, et finissent par leur dire « ça suffit ». Dans le même temps, de plus en plus d'États africains nouent des relations sécuritaires avec Moscou, qui est en mesure de fournir tout le matériel militaire nécessaire, contrairement à Washington, ce qu'a reconnu aux médias un haut responsable américain. Face à cette situation, les États-Unis tentent de changer de stratégie. Pour rappel, suite à la prise de pouvoir par des militaires au Niger, Washington a tenté de profiter de l'éviction de la France du pays sans succès, et ce malgré la visite dans ce pays de la désormais ex-sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, Victoria Nuland. Au micro de Spoutnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, nous a partagé ses analyses de ces révélations.
Un article dans le média américain Politico a fait état de la prise de conscience de Washington sur le rapprochement inévitable entre l'Afrique et la Russie. Quel commentaire pouvez-vous nous faire ?
Je pense que c'est un constat que les Américains sont en train de faire un peu tardivement. Et cela se comprend parce qu'eux pensent que ce qu'ils décident, c'est ça qu'ils devraient être. Malheureusement, ils ne veulent pas reconnaître que les Africains ont leur propre arbitre et leur propre façon de penser et qu'aujourd'hui, les Africains veulent décider d'eux-mêmes avec quel partenaire il faut coopérer. Mais comme vous le savez, les Américains veulent nous imposer un partenariat et c'est eux qui veulent nous dicter avec qui coopérer et avec qui ne pas coopérer. Donc c'est un constat qui vient tardivement actuellement.
Un haut responsable américain a indiqué à la publication l'avantage pris par la Russie face à Washington en matière de partenariat de sécurité. Selon lui, la Russie vend des armes, notamment des hélicoptères, qui répondent aux besoins immédiats des pays africains en matière de sécurité, ce que les USA ne peuvent pas fournir. Pourquoi Washington, selon vous, s'est montré incapable de subvenir aux besoins des pays africains ?
Parce que Washington a conditionné sa coopération par rapport à ses propres intérêts. C'est-à-dire que ses intérêts qui veulent contenir les pays africains dans un cadre qu'ils ont défini. Et malheureusement pour eux, parce que la Russie, par exemple, dans sa coopération, la Russie n'a pas défini un cadre pour nous contenir dans ce cadre. La Russie répond à nos besoins et nous sommes satisfaits de cela. Quand nous avons besoin de quelque chose, la Russie ne rattache pas cela à la politique. Malheureusement, c'est ça que les Américains ont fait. Et ils ramènent tout à la démocratie, souvent à des règles qu'eux-mêmes ne respectent pas. Donc les Africains ont fait le constat et ils ont fait des conclusions. Ils savent qu'aujourd'hui, il faut coopérer avec un pays qui répond à nos besoins sans nous poser des conditions contraignantes.
Et selon vous, quels sont les avantages de la coopération militaro-technique avec la Russie pour les pays africains ?
Les avantages sont là. Il faut voir par exemple l'exemple avec le Mali. En 9 ans de présence des Français, des Américains, des Occidentaux, enfin de tous les pays que vous pouvez citer, et la situation sécuritaire du Mali n'a fait que se détériorer. Et une fois que le Mali a commencé à coopérer avec la Russie en 3 ans, la situation s'est beaucoup plus améliorée et aujourd'hui, le Mali contrôle la totalité de son territoire, à part quelques poches où les djihadistes se sont infiltrés. Donc ça, c'est un constat qui est là. L'efficacité des armes que les Russes nous ont données ont fait leur preuve. Malheureusement, avec les Américains et avec les Français, tel n'était pas le cas. Donc nous sommes beaucoup plus pragmatiques. On a dégagé un triptyque. C'est-à-dire que nous voulons que les pays avec qui nous coopérons respectent notre souveraineté, respectent le choix que nous faisons avec quel partenaire coopérer et que ces pays respectent aussi les intérêts de nos populations. Et la coopération avec la Russie est dans ce cadre-là et nous en sommes très très satisfaits.
On apprend également que les pays africains, notamment le Niger, ont fait part à Washington de leur volonté de ne plus recevoir des leçons sur leur façon de gouverner. Pour rappel, après la prise de pouvoir par des militaires au Niger, les États-Unis avaient tenté de profiter du départ de la France sans succès. Pourquoi, selon vous, la stratégie américaine a échoué en Afrique ?
Parce qu'ils se sont maladroitement pris. Ils ont fait preuve de mépris à l'égard des Africains. Comme vous le savez, au Niger, la délégation américaine qui était venue, et une fois dans les avions qu'ils ont appelé les autorités du Niger, une délégation américaine qui arrive, et ils veulent rencontrer une telle personne et une telle autre personne, sans pour autant prendre la peine de demander d'abord est-ce que les Nigériens étaient disposés ou pas de les recevoir. Donc nous avons vu que il y a manifestement une volonté de nous recoloniser, une volonté de nous imposer des conditions qu'eux-mêmes ne veulent pas qu'on les impose. Parce que je vois mal que des officiels nigériens prennent l'avion, après ils vont dicter aux Américains avec qui ils veulent avoir des contacts ou pas. Donc, c'est ça que les Nigériens les ont dit, de les respecter d'abord. S'ils avaient commencé par ces respects-là, je pense que beaucoup de choses auraient été faciles. Mais malheureusement, comme vous le savez, les Américains ne nous considèrent pas et nous aussi, nous les avons fait savoir que nous ne voulons pas coopérer avec des pays qui ne nous considèrent pas.
Et pouvez-vous nous dire quelles sont les méthodes utilisées par les États-Unis pour conserver leur influence dans le secteur militaire en Afrique ?
Bon, ce sont toujours les mêmes méthodes que les Américains emploient à l'égard de tous ceux qui ne se plient pas à leur volonté. C'est-à-dire que ce sont les sanctions, c'est le chantage, comme vous le savez, et surtout éjecter les pays africains qui ne se soumettent pas de l'AGOA. Donc malheureusement, nous constatons que, par exemple, le commerce avec les États-Unis, la balance commerciale est déficitaire, c'est à notre défaveur. Et nous savons que si nous continuons comme cela, nous verrons plus comme un pays souverain. Donc nous voulons que les États-Unis nous respectent, mais c'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils veulent nous imposer seulement leur point de vue. Et nous avons compris que leur stratégie était et d'éjecter et les Russes et les Chinois et autres du marché africain, alors que nous ne voulons pas de cela.
Je vais terminer par une dernière question. Est-ce que vous pouvez décrire pour nos auditeurs qui nous écoutent quelles sont les différences d'approche entre Washington et Moscou en matière de coopération ?
La différence est très simple à voir. Par exemple, et la Russie nous écoute. La Russie essaie de voir ce que nous demandons, ce que nous voulons dans quel champ nous voulons coopérer avec la Russie, sans pour autant nous imposer quoi que ce soit. Parce que les Russes savent que c'est nous qui connaissons nos besoins et ils sont à notre écoute. Avec les Américains, ce n'est pas la même chose. C'est eux qui viennent nous dire de quoi nous avons besoin sans nous demander même. Et cela est très flagrant dans leur démarche, c'est très gauche de leur part. Si souvent ils prenaient la peine de nous écouter pour savoir nos besoins réels, je pense que les choses auraient été faciles. Mais cela n'a jamais été le cas. C'est eux qui viennent nous dire toujours, vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça, vous devrez faire ça, vous ne devrez pas faire ça. Alors qu'avec la Russie, tel n'est pas le cas. Les Russes sont à l'écoute. Si nous avons besoin de quelque chose, nous discutons avec les Russes et dans une coopération gagnante-gagnante, et nous parvenons toujours à être satisfaits de nos demandes.
C'était Fousseni Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, pour Spoutnik Afrique. Il nous a partagé ses analyses sur les États-Unis, qui ont pris conscience, selon un média américain, que les pays africains comptaient de plus en plus sur la Russie. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a appelé à Abuja lors du sommet africain sur la lutte contre le terrorisme à la création d'un centre régional antiterroriste. Selon lui, l'Afrique doit adopter une approche globale contre ce fléau en s'attaquant à ses causes profondes, à savoir la pauvreté, l'inégalité et l'injustice sociale. Enfin, le président nigérian a souligné que le continent africain devait également s'attaquer aux racines de cette branche maléfique, car le terrorisme évolue et perfectionne les moyens par lesquels il se finance, se rééquipe et se réapprovisionne pour réaliser sa sinistre mission. Au micro de Spoutnik Afrique, Djibril Ninge, analyste politique sénégalais, directeur de l'unité de recherche paix et sécurité du GRADEC, le groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, a réagi à cette initiative prônée par le président nigérian.
Lors du sommet africain sur la lutte contre le terrorisme à Abuja, le président nigérian Bola Tinubu a appelé à la création d'un centre de lutte contre le terrorisme. Pouvez-vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la proposition du président Tinubu ?
La proposition du président Tinubu s'inscrit dans un contexte où, en fait, plusieurs pays africains du Sahel font face au terrorisme sans appui de la communauté internationale. En tout cas, sans appui efficace de la communauté internationale. Et il se trouve également que la commission paix et sécurité de l'Union africaine est tout à fait inopérante à ce niveau-là, ainsi que la CEDEAO. Alors, dans un tel contexte, un tel centre ne peut être que très bien accueilli et vient à son heure. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait encourager. Il faudrait maintenant que l'Union africaine fasse bloc autour de ce centre-là et puisse, sur cette base-là, vraiment réunir les conditions optimales d'une lutte efficace contre le terrorisme, qui puisse rallier toute la communauté internationale.
Selon vous, comment un centre régional antiterroriste en Afrique pourrait répondre aux défis uniques posés par les groupes terroristes sur le continent ?
Oui, je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'études qui ont été faites sur le terrorisme, sur le caractère asymétrique de la lutte contre le terrorisme. Alors maintenant, il faudrait, sur la base de ces études qui ont été faites, s'il y a lieu de faire des études complémentaires, le faire, et voir par la suite, sur cette base-là, comment mettre en place les instruments et les mécanismes pour réussir une telle lutte. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Sur le continent africain, on a les pays de l'AES, donc pour rappel le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont uni leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Des opérations conjointes entre les trois États ont démarré mi-avril. Comment, selon vous, ce centre régional permettrait de renforcer la lutte contre le terrorisme en Afrique ?
Oui, je le disais tout à l'heure, ce centre régional devrait unir toutes les forces de l'Union africaine autour de cette lutte-là, y compris les forces de l'AES. Alors, je pense que si ce centre-là laisse de côté les forces mises en place par l'AES, ce sera la meilleure façon de rater déjà cette lutte-là. Par conséquent, la mise en place de ce centre devrait être une opportunité pour l'Union africaine pour faire bloc entre les pays de l'Union africaine, au-delà, évidemment, des vicissitudes qui ont traversé la CEDEAO.
En matière de lutte contre le terrorisme, la Russie est reconnue pour son expertise en la matière. Et donc, quelle pourrait être la contribution de Moscou dans le travail de ce centre régional de lutte contre le terrorisme ?
Oui, la contribution de Moscou devrait être une contribution de taille. Si l'on sait que déjà, les pays de l'AES, en tout cas certains pays de l'Afrique, ont rompu, plus ou moins, ont remercié les forces étrangères qui étaient stationnées dans leur pays. Par exemple, lorsqu'on prend le cas du Niger, les forces américaines qui étaient en station au Niger, au nombre d'un millier ou un peu plus d'un millier, ont été remerciées et doivent quitter le Niger, n'est-ce pas? C'est le cas au Mali, la France, les troupes Barkhane de la France ont été remerciés et sont partis. C'est le cas également au Burkina, voyez. Dans ce contexte-là, et ces pays-là, ces différents pays ont pris contact avec la Russie, qui est en train de leur apporter en tout cas une aide qui est appréciée par ces pays comme étant une aide très efficace. Je pense que ceci est un test pour Moscou. Si Moscou réussit ce premier test-là avec ces pays-là, cela va lui permettre très certainement d'être d'un apport beaucoup plus efficace que les partenaires traditionnels de l'Union africaine dans la mise en place de ce centre-là et dans son fonctionnement.
Le président Tinubu a souligné que ce sont, je cite, les financements extérieurs et non l'argent africain qui alimentent ces opérations illégales. Donc selon vous, dans quelle mesure les interventions et les politiques étrangères de l'Occident ont contribué à la prolifération du terrorisme en Afrique, en prenant en considération leurs activités dans des pays comme la Libye, le Congo, pour n'en citer que quelques-uns, et comment cela pourrait-il influencer l'approche adoptée par le centre antiterroriste proposé par le président nigérian ?
Oui, c'est ça. Je faisais référence justement aux études. Mais c'est qu'en plus de ces études-là, qui ont aussi identifié ces sources de financement illicites qui alimentent le terrorisme, il faudrait justement, dans la mise en place des mécanismes pour faire face à ces sources de financement illicites, avoir l'appui d'un service de renseignement efficace. Et Moscou pourrait être certainement très utile dans ce sens-là. Non seulement pour la formation des personnels de ce centre en matière de renseignement, mais dans l'immédiat même, en apportant toute la logistique nécessaire en matière de renseignement à ce centre-là.
Le président Bola Tinubu a également établi un lien entre le terrorisme et l'exploitation minière illégale. Pourquoi les terroristes sont-ils particulièrement actifs dans les régions riches en ressources naturelles? Et comment les forces extérieures profitent-elles de la création du chaos dans les pays africains par l'intermédiaire de groupes armés?
Oui, vous savez, après la première période de décolonisation des pays africains et cette deuxième période de lutte des pays africains pour la prise de leur souveraineté par rapport à ce dispositif de néocolonialisme qui a été mis en place par la suite. L'influence des pays qui exploitaient jusqu'ici ces pays africains devient de plus en plus réduite. Et face à cette situation-là, la plupart, certains en tout cas de ces pays, n'hésitent pas à recourir justement à ces forces obscures pour faire main basse sur ces ressources-là. C'est pourquoi c'est une affaire qui devient très compliquée. C'est pourquoi en Libye, justement, le saccage de la Libye par les pays occidentaux, on l'a vu, c'est ce saccage-là qui a contribué très fortement à faire essaimer le terrorisme dans le Sahel. Et par conséquent, on ne peut pas blanchir ces pays occidentaux par rapport même à ces forces terroristes qui, n'est-ce pas, ciblent surtout les pays, les zones à vocation minière pour mener cette lutte-là. Donc, il y a un lien très étroit entre ces forces et les forces occidentales.
Je vais revenir avec ce centre régional antiterroriste. Quelles sont, selon vous, les principales considérations en termes de financement, de ressources et de renforcement de capacités pour le fonctionnement efficace de ce centre antiterroriste régional?
Je pense que d'abord, sur le plan institutionnel, ce centre devrait être sous un commandement unique et ne pas être sous le commandement de tous les pays africains à la fois. Autrement dit, si pour fonctionner, ce centre doit attendre chaque fois que l'Union africaine se réunisse pour prendre des décisions pour faire actionner, ça ne marchera pas. Il faut que ce centre-là ait une certaine autonomie pour fonctionner sur le plan institutionnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait que ce centre compte d'abord et avant tout sur les ressources africaines. Et troisièmement, il faudrait évidemment que ce centre-là ait l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale, aussi bien sur le plan de la formation des ressources humaines que sur le plan du financement, que également sur le plan de la logistique. Voilà un peu personnellement comment je vois la question.
Vous avez parlé justement de communauté internationale et donc, compte tenu de l'histoire de l'exploitation et de l'intervention occidentale en Afrique, comment ce centre antiterroriste proposé par le président nigérian peut-il s'assurer qu'il reste indépendant et libre de toute ingérence ou manipulation extérieure de la part de ces mêmes puissances occidentales?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ce centre compte d'abord et avant tout sur les ressources africaines, sur les ressources financières africaines, sur les ressources matérielles africaines et sur la logistique africaine. Il faut que les pays africains puissent arriver à mutualiser de façon maximale, n'est-ce pas, et mettre en place une ingénierie financière et matérielle. Cela n'est pas impossible si tant est que la volonté politique est là. C'est la seule façon de mettre en place, d'avoir un centre de lutte antiterroristes en régionales de lutte antiterroriste en Afrique qui puissent fonctionner de façon indépendante en dehors de toute manipulation des puissances occidentales. Sinon, évidemment, ce centre sera exposé parce que si ce centre se fait aider par et financer de l'extérieur, ce centre sera vulnérable et donc les puissances pourront passer par cette vulnérabilité pour la manipuler comme elles ont toujours fait avec les dispositifs africains qui ont été mis en place dans ce cadre-là.
Je voudrais parler avec vous d'un volet qu'on peut souvent oublier. Quel impact un centre régional antiterroriste pourrait-il avoir sur les efforts de développement humanitaire et économique en Afrique et en particulier dans les régions touchées par le terrorisme?
Ah oui, ce centre-là aura un impact, n'est-ce pas, très très important parce que, comme un savant africain le disait, cher Anta Diop, pour ne pas le citer, la sécurité précède le développement. Autrement dit, il n'est pas possible de développer l'Afrique si l'Afrique n'arrive pas à créer un climat de paix et de stabilité, de sécurité, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, je pense que le fait que l'Union africaine ait pris conscience de ce postulat-là, de la véracité de ce postulat, et c'est très, très important et ça va permettre justement de créer les conditions d'un développement optimal. Par conséquent, ce centre-là est extrêmement important. Ça va être un élément déterminant dans la création des conditions du développement en Afrique.
Je vais terminer avec une dernière question. Aux États-Unis et en France, on pense que la Russie est en train d'initier le retrait des troupes occidentales des pays africains. Cependant, les raisons invoquées par ces pays africains sont plutôt l'absence de succès dans leur collaboration avec l'Occident, ainsi que l'exploitation de leurs ressources et de l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Et donc, quelle est votre opinion à ce sujet?
Mon opinion, c'est que il y a une coïncidence qui peut faire penser à ça. Parce que c'est au moment où ces puissances occidentales sont remerciées par la plupart des pays africains, c'est au moment où la présence de ces puissances occidentales, tout au moins au plan militaire, est critiquée et remise en cause par la jeunesse africaine et par l'opinion africaine d'une façon générale, l'intervention de Moscou, de la Russie, est tout à fait appréciée comme étant une possibilité d'alternative. Mais là aussi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce qu'au début des indépendances et durant les guerres de libération, Moscou avait eu, l'Union soviétique avait eu une place très importante en Afrique. Mais progressivement, cette place a été, la Russie a été remplacée par les puissances occidentales. Par conséquent, je pense que Moscou, l'Union soviétique devrait historiquement évaluer tout cela pour voir la meilleure façon de rendre son intervention plus efficace auprès des pays africains, aussi bien au plan militaire de la sécurité qu'au plan économique et social. Je pense que si Moscou arrive à faire cette évaluation et par conséquent à réajuster sa présence en Afrique, cela pourrait cette fois-ci lui donner une place prépondérante, importante, que personne ne pourra lui discuter par la suite.
C'était Djibril Ninge, analyste politique sénégalais, directeur de l'unité de recherche paix et sécurité du GRADEC pour Spoutnik Afrique. Il a réagi à l'initiative du président du Nigeria qui souhaite créer un centre de lutte régional antiterroriste. Ainsi s'achève la première partie de notre émission. Dans la deuxième partie de notre émission, nous reviendrons avec Abdoul Diallo, expert géopolitique malien sur les discussions en cours entre Niamey et Washington sur les modalités de retrait des soldats américains du Niger. À tout de suite.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
De retour pour la deuxième partie de l'émission Zone de contact sur Spoutnik Afrique. Derrière le micro, c'est moi, Anthony Lefebvre, et je salue les auditeurs et les auditrices qui viennent de nous rejoindre. Goodbye America! Après la France, c'est au tour des militaires américains de se préparer à plier bagages du Niger. Les responsables venus des États-Unis se sont réunis ce 25 avril avec des membres du gouvernement nigérien pour discuter du retrait ordonné des troupes américaines, a déclaré un porte-parole du Pentagone. Ce départ est la suite logique de plusieurs événements récents. En mars dernier, Niamey avait dénoncé avec effet immédiat l'accord militaire avec les États-Unis qui disposait au Niger d'un contingent d'un millier de soldats ainsi que d'une importante base de drones située à Agadez. Enfin, selon le Washington Post, le numéro 2 de la diplomatie américaine, Kurt Campbell, a accepté le 19 avril dernier le retrait des troupes US lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Dans ce contexte, il faut également noter une déclaration du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration territoriale du Niger. Récemment, il a exprimé l'intérêt de son pays pour la formation des troupes de la République par la Russie. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoul Diallo, expert politique et géopolitique malien, a commenté ces discussions en cours sur les modalités de retrait des soldats américains du Niger. Après le retrait du contingent militaire français voulu par le Niger, ce dernier exigeait également le départ des forces US. Des manifs anti-américaines s'emparent actuellement du pays. Comment expliquer de telles demandes de la part des autorités et du peuple nigérien ?
Nous voulons seulement que les choses se fassent dans le cadre d'une sincérité absolue. Ce qui a manqué dans la coopération entre les trois pays même qui se retrouvent au sein de l'AIS, les Occidentaux. Donc c'est cette manque de confiance qui s'est exposée et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde demande le retrait immédiat des bases françaises et des bases américaines du Niger, du Tchad et ainsi de suite. Vous avez vu, la France avait plus de 5000 hommes sur le territoire malien. Elle n'a pas pu aider les troupes maliennes pour que nous puissions nous débarrasser des terroristes qui ont violé des femmes, qui ont assassiné des personnes, qui ont commis des crimes graves contre l'humanité. Mais après enquête, nous avons conclu que ces terroristes même étaient appuyés par les troupes françaises qui étaient là à travers Barkhane. Et également, c'est le même cas au Niger. On ne peut pas comprendre qu'il y ait une base américaine au Niger, une base qui s'est implantée sur la base de lutte contre le terrorisme et qu'on voit que le terrorisme s'amplifie davantage. Donc, il est normal aujourd'hui pour les Nigériens de demander le départ de ces troupes américaines après avoir fait le retrait des troupes françaises.
Washington aurait accepté la demande de Niamey à en croire les médias. Comment cela changera la donne en termes de lutte antiterroriste au Niger ?
Bon, si Washington accepte la demande de Niamey, cela veut dire que Niamey a posé des conditions. Parce que si les conditions tournent en faveur de Niamey, Niamey va accepter. Parce que il faut savoir que les portes ne sont fermées à aucune coopération dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. Si le partenariat est sincère et gagnant-gagnant, les portes seront toujours ouvertes. Je prends le cas sur le Mali. Le Mali a demandé le retrait des troupes françaises. Bien avant le retrait des troupes françaises, il y a eu le retrait de Takuba. Et nous nous sommes retirés également de la CEDEAO, au même titre que le Burkina Faso et le Niger. Mais si ces coopérations étaient basées sur le partenariat gagnant-gagnant, comme on le fait aujourd'hui avec la Russie, je pense que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Les choses allaient bien se passer. Mais les choses ont mal tourné parce que ceux qui sont venus nous faire des propositions juteuses n'étaient pas sincères dans leur engagement. Donc si Niamey arrive à s'imposer, moi je ne vois aucun problème. Il faut que les États-Unis soient sincères, mais malheureusement, je ne suis pas sûr s'ils seront sincères parce qu'ils ne sont pas là pour le Niger, ils sont là pour protéger leurs propres intérêts. Il faut dire quelque chose. que les gens évitent de dire souvent. Moi, je le dis, les États-Unis veulent s'imposer comme une puissance mondiale. Or qu'aujourd'hui, on voit que tout est faux. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, les États-Unis sont en train de lutter contre la présence russe sur le continent africain, contre la présence chinoise sur le continent africain, pour pouvoir s'imposer. Ils ne veulent pas de rivalité. Donc, ils savent que les partenariats avec la Russie et la Chine sont des partenaires sincères et des partenaires gagnants-gagnants. Donc, ce qui va leur mettre au bas des choses. Donc, ils veulent tout faire pour pouvoir s'imposer.
Au mois de mars dernier, le général Tiani avait déclaré qu'il savait qu'il pouvait compter sur la coopération russo-nigérienne pour réussir son combat patriotique. Comment l'aide russe pourra participer à la reconquête de sa souveraineté ?
Vous savez, l'aide de la Russie est très très importante dans la reconquête de la souveraineté du Niger. Ce fut le cas au Mali également et le Burkina Faso. Avant, nous voulions acheter des armes puissantes pour pouvoir bien armer nos troupes afin de faire face à la menace terroriste, mais nous n'avons pas pu parce que nous avons été empêchés d'acheter des armes. Surtout, la monnaie que nous utilisons, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une monnaie coloniale et une monnaie dont le contrôle est assuré par le Trésor français. Donc c'est eux qui détiennent toute l'autorité sur cette monnaie. Donc c'est elle qui garantit la monnaie également. Donc il fallait passer par un autre processus pour pouvoir doter nos forces armées d'équipements sûrs. Donc c'est pour cela que vous avez vu, la souveraineté ne peut être acquérie totalement que par le renforcement des capacités et opérationnelles de nos troupes. Il faut assurer ça. Parce que toi, tu es là, dans ton pays, tu n'arrives pas à te protéger toi-même et tu comptes sur une autre personne pour te protéger. Ah, donc cette personne aura le dessus sur toi. Donc, mais si tu parviens à avoir une personne qui est prête à t'aider à pêcher au lieu de t'apprendre à manger du poisson, je crois que ça te rassure davantage. Donc la Russie est un allié sûr pour le Niger dans le cadre de la reconquête de la souveraineté, comme ce fut le cas au Mali et le Burkina Faso. Ils ont accepté de nous vendre des armes. Et ils ont accepté également d'envoyer des instructeurs russes auprès de nos forces armées pour les former dans le cadre de l'utilisation de certains armements.
Après que le Niger a exigé le départ des forces américaines, le Tchad a menacé lui aussi de rompre l'accord de sécurité avec les États-Unis, le contingent de ces derniers risquant d'être retiré de la base à N'Djamena. Comment peut-on expliquer cette tendance qui devient de plus en plus palpable ?
Vous savez, il est évident que la population tchadienne se lève pour demander le retrait pur et simple de ces troupes hypocrites, de ces troupes mafieuses qui sont là sur le pseudo de nous aider à nous débarrasser des terroristes. Non, ce n'est pas vrai. Leur présence est pour protéger leurs propres intérêts. Donc, cette tendance, elle a pu naître à partir des grandes révélations logiques également et claires du président colonel Assimi Goïta. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous les pays africains conscients, tous les chefs d'État africains conscients ont les yeux braqués sur le Mali. Le Mali fut un modèle de révolution. Le Mali fut un modèle de réveil africain. Donc le Tchad aujourd'hui a vu les exploits que le Mali a fait tout en se débarrassant également de ces hypocrites de partenaires qui étaient là pour leurs intérêts. Et il est aujourd'hui évident que le Tchad également demande à ce que les États-Unis, la base, puissent être retirés du Tchad. Et ça, le processus va se suivre. Je suis sûr que dans le futur, il y a beaucoup de pays africains où se trouvent les bases africaines et les bases françaises et américaines. Ils vont demander à ce que ces bases-là soient retirés de leur pays.
Il existe une opinion en France et aux États-Unis selon laquelle la Russie provoque le retrait de leurs troupes des pays africains. Cette prise de position est-elle justifiée ? Et que perdent les Occidentaux avec leur départ du sol africain ?
Non, la Russie n'a jamais provoqué le retrait d'un pays occidental de l'Afrique. La Russie aussi, on a longtemps raconté que du mensonge au sujet de la Russie. au sujet de la Chine et de d'autres pays. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on voit que depuis longtemps, les Occidentaux ont manipulé l'opinion africaine, qu'il était mauvais, il n'était pas bon de coopérer avec la Russie. Et on a vu aujourd'hui que coopérer avec la Russie est une chance, est une bénédiction à la fois également pour les pays africains. Parce que la Russie ne s'immixe pas dans les affaires internes d'un pays. La Russie ne gère pas, la Russie n'impose aucune loi à aucun pays. Donc les accords qui vous lient, c'est sur la base de ces accords que les choses se traitent. Donc la Russie n'a pas provoqué le retrait d'aucun pays. Ce sont ces pays-là même, ce sont ces pays occidentaux qui ont provoqué même leur propre déclin, leur propre chute et leur propre retrait du continent africain.
C'était Abdoul Diallo, expert politique et géopolitique malien pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les discussions actuellement en cours entre Niamey et Washington sur le retrait organisé des soldats américains de ce pays.
Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact, marché en main et identité africaine. Politique, économie, défense, sciences et culture. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a dicté le ton à Bruxelles. Fraîchement arrivé au pouvoir, le nouvel homme fort de Dakar recevait dans la capitale sénégalaise le président du Conseil européen Charles Michel. Durant leur rencontre, le président sénégalais a plaidé en faveur d'une réévaluation du partenariat avec l'UE, basée sur une vision d'un ordre mondial international plus juste. Dans le viseur de Bassirou Diomaye Faye, il y a notamment l'accord de pêche controversé entre Dakar et Bruxelles. L'industrie halieutique, qui occupe une part importante de l'économie sénégalaise, souffre actuellement des effets néfastes de la surexploitation des stocks marins. Sur ce problème épineux, Charles Michel a déclaré qu'il ne faut pas craindre d'aborder des sujets difficiles si cela signifiait d'apporter des améliorations pour les deux parties. Au micro de Spoutnik Afrique, Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, est revenu sur ces déclarations du président sénégalais. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé vouloir repenser les relations avec l'Union européenne à l'occasion de la visite officielle du président du Conseil européen, Charles Michel, à Dakar. Peut-on parler de l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations externes du Sénégal avec le monde et notamment avec l'Europe ?
Oui, je pense que le président du Sénégal a été très clair, aussi bien avec M. Michel qu'avec les autres. Sa position se situe dans la perspective, je dirais, d'une nouvelle approche africaine des relations internationales, des relations internationales basées sur le respect, sur la considération, sur l'égalité entre les différentes parties. Donc, le Sénégal souhaite établir de nouvelles relations basé sur ces principes-là.
Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye avait promis dans son programme électoral de renégocier les accords de pêche ainsi que les contrats d'exploitation de pétrole et de gaz signés par le Sénégal avec l'UE. Sur ce dossier, Charles Michel a déclaré que lorsqu'il y a le sentiment que des sujets doivent être abordés, on ne devait pas les redouter pour apporter des améliorations de part et d'autre. Quelle analyse pouvez-vous nous faire de cette déclaration du président du Conseil européen sur cette question épineuse entre Bruxelles et Dakar ?
Je pense que c'est une analyse très raisonnable. Tout le monde sait que la plupart des contrats qui ont été signés entre les pays africains et les partenaires des pays occidentaux notamment, en général, et peut-être avec d'autres pays aussi, ont été souvent des contrats léonins, où en réalité, la partie africaine n'a pas été considérée comme égale de l'autre partie. Donc, très souvent, les Africains n'ont pas pu bénéficier de ce qui aurait dû être leur dû dans ces différents contrats. Donc, il est tout à fait légitime qu'aujourd'hui ou que maintenant, les pays africains commencent à demander qu'on reconsidère le contenu de ces différents contrats. La revendication du président du Sénégal est absolument fondée en droit. La plupart des contrats comportent quand même des clauses qui permettent de les réviser, qui permettent de les remettre en question. Je pense que c'est que ça soit maintenant sur la pêche. Tout le monde sait ce qui se passe sur la pêche. Il n'y a même pas besoin d'insister là-dessus. Les autres contrats aussi.
Le nouveau président sénégalais a également appelé récemment à revisiter les relations entre le Sénégal et la France, soulignant que son pays demeurait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Comment interpréter ce message envoyé à la France ?
Mais oui, ça veut dire que le Sénégal veut, à l'instar de la France, où le général de Gaulle à l'époque disait que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais c'est simplement ce que réclame aujourd'hui, en tout cas, un pays comme le Sénégal. Mais ça, déjà, dès le président Ablaye Wade, il y avait cette volonté de diversifier nos relations. Et en réalité, lui-même avait déjà diversifié les relations du Sénégal. Parce que c'est ça qui est normal, qui est légitime. La France ne peut pas régler tous les problèmes des États africains ou les problèmes du Sénégal. Donc le Sénégal doit diversifier ses partenaires en fonction de ses intérêts. Et c'est ce que le Sénégal veut faire. Il y a aucun souci. Moi, je vous parle en français. Donc, les Sénégalais, beaucoup ont été formés en France. Ils ont des relations particulières avec la France. Mais ceci n'empêche que le Sénégal, en tant qu'État, a ses intérêts, comme la France en tant qu'État. Et c'est un État européen qui a des intérêts européens d'abord. Nous, on est un État africain avec des intérêts africains d'abord. Donc, sur cette base-là, je crois qu'on peut parfaitement comprendre les prises de position du nouveau président sénégalais et qui n'ont rien d'agressif ni rien du tout. C'est tout à fait légitime. C'est en continuation avec les positions du Sénégal depuis peut-être depuis quelques années.
On va revenir avec vous sur l'une des propositions phares du nouveau chef de l'État sénégalais, à savoir l'abandon du franc CFA. Selon lui, il n'y a pas de véritable souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Est-ce que vous croyez qu'il réussira à avancer dans ce sens et par quels moyens surtout ?
Mais ce qu'il affirme là aussi, c'est une banalité. Tout le monde sait que l'un des éléments de la souveraineté, c'est avoir sa propre monnaie. Il y a beaucoup de bruit autour de ça. Mais tous les pays qui entourent le Sénégal ont leur monnaie propre, sauf peut-être le Mali. Donc, la Gambie, la Mauritanie, tous ces pays ont leur propre monnaie. Ça n'a créé aucune crise en leur sein, ni aucune crise entre eux et leurs partenaires étrangers. Le président Diomaye Faye a dit simplement que, partant de ce constat qui est banal, ça veut dire que c'est un élément de souveraineté, la monnaie, il a dit quand même tout de même, nous, on ne cherche pas à avoir une monnaie est uniquement sénégalaise. On est dans le cadre de la CEDEAO qui est notre regroupement régional d'à peu près de 15 États et que, bon, on va travailler dans ce cadre-là pour avoir une monnaie unique. Mais ça, c'est pas lui qui a lancé cette recherche. Ça date de plusieurs années. Il dit que maintenant, au cas où, au fil des temps, dans un temps raisonnable, il verrait que cela ne peut pas marcher, il va voir comment le Sénégal peut avoir sa propre monnaie pour assumer totalement ses responsabilités, comme la Gambie peut le faire, comme la Mauritanie le fait, comme la Guinée. Il n'y a vraiment pas de quoi se créer des... comme je l'entends souvent, je sais pas moi, de toute une série de déclarations. Moi, je pense que c'est tout à fait donc possible et légitime que cela puisse arriver un jour, selon le processus tel que le président du Sénégal l'a déclaré.
Et selon vous, l'abandon du franc CFA peut-il bien contribuer au renforcement de la souveraineté du pays?
Je vous dis que tous les pays souverains ont eu à un moment donné leur propre monnaie. Cependant, compte tenu de l'environnement mondial, de l'évolution du monde, des pays qui avaient cette souveraineté ont pensé que s'ils se regroupaient, ils seraient plus forts et que ce serait bon que la souveraineté de cette nouvelle entité soit matérialisée par l'existence d'une monnaie. Ainsi, ils ont créé l'euro. Donc, le président Diomaye estime simplement que dans le cadre de la CEDEAO, on crée une monnaie que je pense qu'on lui a donné un nom. On lui donnera un nom. Bon, le nom existe déjà. C'est l'écho. Voilà. Et que c'est dans cette perspective. Au lieu de chercher une monnaie uniquement sénégalaise, lui, il pense en tant que panafricain qu'on n'a qu'à chercher une monnaie qui regroupe à peu près la quinzaine d'États. Et je pense que ça, c'est une revendication tout à fait légitime. Maintenant, si les autres États ne veulent pas aller dans cette dynamique, il va essayer de chercher une monnaie propre au Sénégal. Mais ça, c'est une revendication légitime qui a toujours été ainsi. Avant l'euro, il y avait le Deutsche Mark, il y avait le franc français, il y avait la lire italienne, chacun. C'est après qu'ils aient décidé de transférer leur souveraineté à une entité commune qu'ils ont cherché aussi une monnaie qui reflète cette autonomie, cette souveraineté de cette entité nouvelle, qu'est l'Europe, qu'est l'Union européenne.
D'habitude, le président élu réservait ses premières visites officielles en Occident, et cette fois-ci, c'est le sens inverse. Il a choisi les pays voisins comme ses premières destinations. Comment, selon vous, cela caractérise les priorités de sa politique étrangère?
La population sénégalaise, la moyenne, la population sénégalaise, les 90%. Mais leur préoccupation n'est pas, leur souhait n'est pas de voir leur président élu aller à des milliers de kilomètres pour y faire souvent. Nul ne sait d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font là-bas. Leur préoccupation, c'est d'aller ici, à côté, en Mauritanie, au Mali, aller à côté, notamment, en Gambie. Parce que ça, c'est le vécu quotidien. Il ne viendrait à l'esprit de personne qu'un président français élu aille en Russie ou en Chine pour faire sa première visite. Je ne sais pas pourquoi on veut demander aux Africains de faire des choses que eux-mêmes, que les autres ne font pas. C'est-à-dire, parce que quand ils se posent la question même, c'est parce qu'ils pensent que oui, pourquoi ça ne s'est pas fait. Ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait, peut-être que c'était une période, mais ils n'avaient pas, en tout cas les jeunes chefs d'État africains, qui sont patriotes et panafricains, et qui vivent une période où la jeunesse africaine veut que le continent africain change, ces gens-là, à mon avis, ne le feront pas. Ils ne quitteront pas leur pays pour que leur première visite soit réservée à des États qui sont à des milliers de kilomètres. Ça n'a pas de raison.
D'aucuns disent qu'avec les nouvelles autorités au Sénégal, le pays pourrait se tourner plus vers d'autres partenariats que ceux avec l'Occident. Qu'en pensez-vous?
Il est important que les États africains s'adressent à ceux qui ont envie de les voir se développer. Il y a des groupes, des forces dans le monde qui peut-être ne sont à l'aise que s'ils voient des pays africains dans la misère. Mais il y a d'autres qui pensent que si l'Afrique se développait, il serait un marché. Un marché qui pourrait acheter des produits à l'étranger, qui pourrait en fabriquer aussi en vente. Et cela, s'il y en a dans le monde, quelle que soit leur nationalité, qui veulent travailler avec l'Afrique, l'Afrique doit diversifier. La question n'est pas de parler aux Africains d'Occident ou de pas. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dans les relations entre l'Occident et l'Afrique que je ne vois pas en quoi ça peut être une exclusivité. Non, l'Afrique, bon, ok, il y a des choses qui se sont passées dans l'histoire, en bon ou en mal. Maintenant, il y a une nouvelle jeunesse africaine. Et ce qui est important, c'est que les gens tiennent compte de cette réalité. Les choses, beaucoup de choses ne pourront plus jamais se passer comme avant. C'est une lame de fond. C'est une jeunesse qui veut simplement que leur pays, leur peuple soit respecté, soit considéré. C'est pas une autre revendication. Il y a aucun, là au Sénégal où je suis catégorique là-dessus. Il y a aucune hostilité à l'égard de Français ou d'Anglais ou d'Américains. Rien du tout. Rien. Ça ne passe même pas par la tête.
Je vais terminer sur une dernière question. Des experts prévoient que Dakar pourrait tisser des liens étroits avec l'Alliance des États du Sahel, formée pour rappel par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Croyez-vous qu'une collaboration avec l'Alliance pourrait être bénéfique au Sénégal ?
Mais cette alliance, elle est naturelle. Elle doit exister. Simplement, ce que le Sénégal, sûrement le combat que le Sénégal, pour lequel le Sénégal... Je le crois bien, pour lequel le Sénégal va se mobiliser, est simplement que les frères-là, tout en créant cet espace, tout en créant ces nouveaux espaces, demeurent dans le grand ensemble. Parce que le fait de créer les États du Sahel, de mon point de vue, n'emporte en rien un retrait total de la CEDEAO. L'UOMOA est dans la CEDEAO. D'autres, je sais pas, l'OMVG, ça dit, il peut y avoir plusieurs entités. Ce regroupement des États du Sahel, c'est fait sur la base de certains constats, autour de leur intérêt commun, autour de certaines perspectives de développement, d'intégration sous-régionale. Donc, le Sénégal doit absolument avoir des relations très, très poussées avec, mais le Mali, le Sénégal, c'est pareil. On ne peut pas à travers le Mali. Donc, la relation avec le Burkina et autres, ça continue. Je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Simplement, il me semble que le Sénégal, qui est attaché totalement à l'existence de la CEDEAO, ne pourra qu'essayer de les amener à demeurer dans le cadre régional. Voilà. Donc, je pense que c'est légitime que le Sénégal développe des relations poussées avec les États, la nouvelle organisation des États du Sahel, du fait de la proximité avec le Mali, du fait que c'est un État frère qui avec lequel le Sénégal est lié par beaucoup de relations. Et de ce fait, le Sénégal, à mon avis, ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. Et surtout quand ils forment une même entité. Maintenant, cette entité a décidé de sortir de la CEDEAO. Et je pense que les États du Sahel, les trois États du Sahel, peuvent constituer une entité nouvelle sans que cela ne les oblige à quitter la CEDEAO, de mon point de vue. Car il y a d'autres sous-entités dans le cadre de la CEDEAO, que ce soit l'UOMOA, que ce soit l'OMVG, ce sont des organisations qui sont dans le cadre et qui sont dans la sous-région. Donc je pense que le Sénégal n'a aucune raison de ne pas établir de bonnes relations avec la nouvelle entité sahélienne.
C'était Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les récentes déclarations du président sénégalais qui souhaite repenser les relations de son pays avec l'Union européenne. Mesdames, messieurs, Radio Sputnik Afrique rend dès à présent l'antenne. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Telegram Sputnik Afrique officielle qui compte désormais plus de 30 000 abonnés et à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et international en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.